Vous écoutez
RMC.
Allez, Marseille, on y va tout de suite. Florent Germain est avec nous. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Salut Flo.
Et salut Laure, j'aurais dû commencer par toi, je m'en excuse.
Oui, bah, on n'a tellement pas l'habitude d'avoir une fille dans l'after qu'on en perd nos réflexes.
Ouais, exactement.
Nos réflexes de la vie de tous les jours.
Alors, les sudistes.
Alors, au sud.
Bon, dis-moi tout, Gilbert.
Alors, démarrons par Villas-Boas, si tu veux bien, et après, on parlera de Jacques-Henri Hérault. Donc, tu as vu Villas-Boas?
Non. On l'a eu au téléphone.
Ah oui,
parce qu'on est encore confiés.
C'est vrai, pardon, pour être précis. Mais t'as dialogué avec Villas-Boas.
Hein. Exactement.
Mais il est, physiquement, il est où là?
Il est au Portugal encore.
Il est au Portugal, oui.
Il est au Portugal. Et vous avez parlé un peu de tous les sujets. Alors, je te laisse un peu dérouler. On va entendre quelques extraits de l'interview et ensuite on analysera ça ensemble.
Juste avant, Flo, c'était Daniel. Quoi le contexte? C'est une demande de notre part d'interview avec Villas-Boas ou c'est
en
ou
fait, c'est l'OM? Non, c'est ça. Non.
Pas du tout. Jacques-Henri Hérault, l'entraîneur. C'était le moment de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, écoute, on s'est concerté avec Mohamed en fin de semaine. On a eu le nez. On s'est dit, il n'a pas parlé depuis longtemps. La qualif en Ligue des Champions est officielle. Ouais. On ne l'entend pas. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il envoie un message aux supporters. Il faut qu'on l'entende. Et effectivement, quand on a contacté l'OM, on a senti qu'il y avait une petite porte ouverte. Et puis après, dans le week-end, il y a eu ce message que lui a envoyé, tu sais, sur Instagram, en faisant une lettre assez émouvante, qui a un peu perturbé aussi les supporters marseillais, parce que certains y voyaient une lettre d'adieu. Donc, ça nous a encore plus donner d'arguments pour qu'il clarifie sa position, si possible. Enfin, en tout cas, qu'il accorde sa première interview depuis la fin de saison. Il avait déjà parlé juste du confinement un peu avec Mohamed il y a une quinzaine de jours, trois semaines, pour parler de comment il vivait la situation depuis le Portugal. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé ballon avec lui depuis la fin de saison, enfin depuis que le championnat était arrêté. Donc on a un petit peu insisté. Et puis la com de l'OM a joué le jeu. C'était pas forcément une volonté au départ de l'OM qui parle. Hein. Il n'y a pas eu de, ça n'a pas été orchestré du tout par le club. Il a fallu négocier. On a demandé. L'OM a été très fair-play dans l'histoire en nous donnant entre guillemets l'exclusivité. Donc on a pu parler avec André Villas-Boas. On avait une demi-heure au téléphone.
L'OM sait quels sont les journalistes qui comptent.
Peut-être ou les médias qui comptent. Donc RMC pour le coup a été choisi et on remercie l'OM. Donc on l'a eu une bonne demi-heure au téléphone sur les coups de 14h. Au départ c'était 14h finalement. 14h30, on a eu 35 minutes au final d'interview. Et évidemment, alors c'était pas le but unique de l'interview, mais vous vous doutez bien que la question qui brûle les lèvres, c'était de savoir s'il avait pris une décision pour son avenir. On rappelle que André Villas-Boas est en fin de contrat dans un an, il n'avait signé que deux ans, qu'il a tenu quand même au long de la saison des propos qui étaient assez clairs, hein, à savoir son inquiétude en gros de ne pas être compétitif la saison prochaine en Ligue des Champions.
Écoutez, ça c'était un peu le credo de
beaucoup de joueurs
de toutes ces interviews et c'est toujours délicat à comprendre. Je sais jamais réellement comment envisager ces réponses là moi, parce que oui je reste mais à condition. C'est comment dire, est-ce que c'est positif ou négatif de dire ça? Parce que c'est bon, en gros je reste s'il y a de l'oseille, si on est compétitif, ce que je peux comprendre pour un compétiteur. Et en même temps, c'est vraiment une sorte de, je sais pas si chantage, le mot est peut-être un petit peu fort, mais
quand même un coup de pression en tout cas.
Ouais, voilà, mais c'est difficile de mettre un coup de pression comme ça quand tu connais les difficultés économiques que le club rencontre. Donc comment on analyse ça? Comment le supporter de l'OM peut comprendre l'interview de Villas-Boas, qui est à la fois très positif, il est content d'être là, il a envie de continuer, il a bien travaillé pendant un an, il a redressé un club qui était pas bien. Et puis à la fin, on entend je veux rester, je veux faire la Ligue des Champions, mais à condition.
Tiens, bah, écoute-le justement Daniel, parce que tout le monde ne l'a pas entendu et c'est vrai qu'on a essayé de condenser là en 35-40 secondes la réponse à cette question, à savoir est-ce qu'il veut rester à l'OM. Écoutez André Villas-Boas.
Oui, mais dans certaines conditions structurelles qui sont importantes. Je dois comprendre plus ou moins les personnes qui sont là à mon côté, ça veut dire Randoni et Albert, sont toujours des personnes avec pouvoir ou non. Moi, comme entraîneur et eux, comme directeur sportif, on veut avoir le pouvoir pour exécuter les décisions. Je te dis sincèrement, je suis très bien à Marseille. J'ai pas envie de chercher les autres clubs ou des autres options. J'ai envie de faire, évidemment, la Ligue des Champions à Marseille. Mais je veux savoir plus ou moins à quel point on est dépendant économiquement, si on n'a pas les conditions de faire un bon travail, c'est pas la peine, je pense, tu sais.
Voilà, donc ça laisse évidemment un doute, hein. Si on n'a pas les conditions financières, c'est pas la peine. Donc en gros, il veut que Andoni Zubizarreta, Albert Valentin et lui aient un pouvoir fort en termes de décision sportive. Il veut donc connaître un petit peu plus la situation financière. Et en fait, ce qui est pas anodin, c'est qu'il devait y avoir, avant le confinement et la crise sanitaire, une réunion à la mi-mars entre justement tous ces hommes-là, hein, notamment Villas-Boas, Zubizarreta et Jacques Henriero, pour faire un point très clair sur la situation économique. En fait, le coach Villas-Boas, il a besoin d'être assuré, un, sur la pression du fair play financier, sur l'engagement de l'OM en Ligue des Champions et sur la capacité qu'aura Marseille à garder certains joueurs. On l'écoutera un petit peu plus tard, notamment sur le mercato.
Excuse-moi, c'est néanmoins toujours très flou parce que la situation du fair play financier, malheureusement, ça dépend pas de l'OM. Garder les joueurs. De la même façon, ça dépend beaucoup de la situation financière. Si décider que la situation n'était pas bonne pour lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête de bosser ou il profite d'une opportunité qui s'offre à lui ? Est-ce que des opportunités s'offrent à lui ? Est-ce qu'il reste à l'OM par défaut s'il n'y a pas une offre qui est satisfaisante pour lui ? Encore une fois, gros flou, je n'arrive pas à comprendre exactement ce que veut dire l'interview, quoi.
Sportivement, je pense qu'il aura, en tout cas, il aura gain de cause, je pense, sur le fait de travailler sur le plan sportif avec Zubizarreta et Valentin. Je pense que ça, pour le coup, il aura cette opportunité de travailler pour le recrutement et d'avoir cette ambition de recruter des joueurs qu'il a envie d'incorporer dans son effectif. Le problème, c'est tant qu'il n'aura pas la réponse économique, je vois pas comment il va avancer. Et aujourd'hui, économiquement, quand même, j'ai du mal à voir quand même Marseille réussir à stabiliser son effectif parce que lui, clairement, il a exposé qu'il avait envie de garder cette ossature d'équipe qu'il a construit cette saison et qu'il voulait des renforts de poids pour pouvoir figurer, en tout cas faire bonne figure. Exactement. Je sais, vu qu'il n'y a pas d'argent, ça me paraît compliqué.
T'as vu comme ça a été dur de faire venir Rongier l'été dernier ? Rongier, c'était impossible.
La chose, moi, qui me contrarie là-dessus, c'est encore une fois, et tout en revient au président, en fait. Président et actionnaire, hein, parce que l'actionnaire, c'est pareil. C'est-à-dire, comment tu peux laisser dans le flou ton entraîneur, comme ça, alors que la saison est finie, qu'on est début mai, même pas, tu t'essayes de l'avoir au téléphone, de lui expliquer, d'essayer qu'il revienne sur Marseille pour se voir, pour faire le point, pour lui expliquer la situation économique. Alors en effet, je pense que lui, malheureusement, quand j'entends son interview à Villas-Boas, je me dis que en fait, il est dans le flou, comme les joueurs qui sont en fin de contrat, on en parlera tout à l'heure, qui arrivent en fin de contrat l'année prochaine, qui ont aucun signe de vie de la part de leur club. Tout le monde leur dit, il y a des problèmes économiques, il va falloir vendre, et ceci, est-ce que le fair play financier, ok, d'accord, on va mettre ça de côté, parce que le fair play financier, on ne sait pas ce qu'il adviendra pour l'OM, et ça, même l'actionnaire, ils ne savent pas aujourd'hui. Mais après, le sportif, le plan économique, ils le savent, du moins, ils sont au courant des chiffres. D'un moment, tu vas voir ton entraîneur et tu lui dis, écoute, on a la possibilité de garder l'effectif, il va falloir qu'on vende un tel et un tel. Après, à toi de prendre la décision, mais laisse pas l'entraîneur dans le flou comme ça, parce que ce genre d'interview, il l'a déjà fait. Si tu reviens, la dernière, c'était il y a quoi, Flo ? C'était il y a deux, trois mois.
C'était au mois de février, janvier-février, quand il a commencé à.
Moi, juste quand même, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que quand il dit ça, et d'ailleurs, c'est marrant parce que Stéphane a fait la même chose à Rennes aujourd'hui. Stéphane, il a dit, moi, je prépare la Ligue des Champions avec un budget d'Europa League. Ça va un peu la même démarche que ce que fait Villas-Boas.
Les mecs devraient arrêter de parler comme ça. Ils savent qu'il n'y a pas d'oseille dans les clubs.
Oui, mais
il n'y a pas d'oseille. De l'oseille, il y en a une tonne, en fait. C'est ça le grand paradoxe. C'est que les budgets sont importants, les masses salariales sont importantes. Et à l'arrivée, les mecs te disent, on ne peut pas travailler, on ne peut pas ceci. Ça veut dire que l'argent est utilisé bizarrement.
Alors, Villas-Boas, je pense qu'il est en train de faire un, il fait un sans faute, Florent, tu, je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport aux supporters. Les messages récents, ce qu'il fait.
Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est forcément sans faute?
Ah, bah oui. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression,
sur. Il met la balle dans le camp de Jacquin et Héros, et des actionnaires.
Les supporters, ils kiffent tous Villas-Boas. Ils disent, bah attends, il a raison, hein, Villas-Boas. Il a raison de mettre la pression. Nous aussi, on veut une équipe en Ligue des Champions et tout. Voilà. Tu vois, donc, Villas-Boas, quelque part.
Je pense que tu prends les supporters pour plus cons qu'ils. Enfin, je comprends pas en fait.
On va les avoir les supporters dans quelques instants. Maintenant, moi, je serai Jacques-Henri Hérault pour finir.
Non, mais c'est comme un enfant. C'est comme si le supporter est l'enfant.
Dis, attends, t'es cadre supérieur de ma boîte. T'es un élément très important. Non. Sois solidaire de tes dirigeants.
Non, excuse-moi.
C'est comme si
Gilbert. Permet.
Attends.
Bah alors.
Non mais c'est nul ce que tu dis.
Eh ben non, c'est pas nul ce que tu dis.
Excuse-moi. C'est comme si vous permettez une image très 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 simple que tout le monde va comprendre. Le supporter, c'est l'enfant. Il dit non mais moi il met la pression sur Villas-Boas, c'est la maman. Et il dit, bah non, on va l'acheter le nouveau jouet. Mets la pression sur papa. Donc c'est comme si maman elle met la pression sur papa, mais elle sait pas, papa il a pas l'oseille.
J'ai pas dit ça.
Où est-ce que c'est intelligent?
J'ai pas dit ça. Moi ce que je t'ai dit c'est que c'est maman qui dit à l'enfant, on va regarder si on peut avoir le cadeau pour Noël, je vais en parler avec papa.
Ouais, mais c'est pas sûr. C'est très bien que papa, il n'a pas l'oseille. C'est la même caisse, non?
Mais c'est pas sûr. Donc, du coup, qui c'est qui a la pression? Bah, c'est papa.
Ah oui, parce que toi, tu penses que Villas-Boas, il sait,
Il est bien au courant que son équipe a des problèmes, qu'ils ont eu du mal à avoir Rongier l'été dernier, que ça a représenté un transfert à limite astronomique, que le club, va passer devant, que le fair play financier peut lui tomber sur le coin du nez au mois de juin.
Non, mais d'accord.
Et il est pas
bête, Villas-Boas. Il va dire à maman, t'es bien gentil d'avoir dit ça, pourquoi t'aurais mieux fait de te taire?
Et puis, maman peut toujours aller voir papa en disant, dis donc, ça fait 3 ans que tu gères le club à l'envers et qu'il n'y a plus une thune dans les caisses. Bah, l'autre, il va dire, oui, tape-moi dessus, mais je peux plus rien faire.
Ah, non, mais si.
Et voilà.
Mais toi, Daniel, tu considères que André Villas-Boas, du coup, ne doit parler que pour dire, je reste ou je pars, quoi.
Exactement.
Bah moi je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé.
Déjà parce qu'on l'a pas appelé
avec Mohamed juste une minute pour qu'il nous dise au fait coach est-ce que vous restez, c'est aussi nous qui mettons en valeur ce passage là et après on va en écouter d'autres.
Oui, après quand il te dit, c'est ce qu'il dit.
Non mais bien sûr, sait ce qu'il dit, il sait que il va être questionné là-dessus hein, il s'y attendait, il y a pas de problème. Il sait que ce sera repris. Pourquoi après 2 mois et demi ne pas expliquer clairement aux supporters marseillais, écoutez, voilà la situation, je suis toujours pas encore fixé sur les ambitions de l'OM, j'ai besoin de savoir maintenant qu'on est qualifié en Ligue des Champions, au moins on y voit clair, parce que avant, qu'on le veuille ou non, l'OM n'était pas encore officiellement qualifié, donc il n'avait pas eu l'occasion d'affirmer avec force, écoutez, maintenant je veux surtout ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions, ça a été son discours. Moi je le trouve honnête, on a encore affaire
à un... pas qu'il est pas honnête,
mais on a encore affaire Daniel a un coach qui est sincère et qui livre ses préoccupations. Le fait qu'il y ait une réunion lundi, il arrive à Marseille lundi pour rencontrer le président. Ils vont refaire un point et sûrement qu'il s'exprimera après un peu plus tard.
Il a raison de mettre un coup de pression en fait. C'est ça.
Il a raison. Vous comprenez pas.
Ce que je veux dire.
Maintenant, chaque élan de nécessité est considéré, Daniel, comme un coup de pression.
Je ne doute pas de son honnêteté, mais c'est un petit peu comme si le club de foot n'était pas une unité, mais un club divisé en 3 parties. Joueur, entraîneur, dirigeant. Moi, j'ai dans l'idée, mais je me trompe peut-être, que le club est une unité. Que donc, le joueur qui dit « Ah ben moi, je reste, mais si on a l'ambition, si machin... » Déjà, ça, pour moi, c'est très, très bizarre.
C'est un sondage du vestiaire, d'ailleurs.
Si t'as envie de continuer, fais le point de tes ambitions avec ton agent et tout, mais il ne va pas nous casser les couilles à dire ça devant tout le monde. L'entraîneur, deuxième partie. Il sait très bien quelle est la situation du club. Il est lié au directeur sportif parce qu'il le kiffe et il dit, moi, je veux bosser avec lui et tout. Si tu viens pour dire, ouais, mais je dois faire le point, peut-être que je reste pas s'il y a pas d'oseille et si on peut pas recruter. Mais, attends, il y a une unité ou il y a pas d'unité où c'est chacun tire la couverture à lui? Pour qu'ensuite, si jamais il s'en va en juin, et puis dire, non, mais je m'en vais parce que franchement, on va avoir une équipe de merde, on va faire 4e de la poule en Ligue des Champions. Bah, pardon, ça ressemble à de la lâcheté, ça.
Alors, attendez, avant qu'on
aille plus loin. Je peux pas comprendre. N'exonère pas de ses responsabilités les dirigeants qui ont mis la situation, qui ont mis le club dans cette situation-là, financièrement. Mais ça provoquera peut-être chez les supporters la réaction suivante. Villas-Boas s'est barré. parce que machin a mal géré.
Bon, on va voir. Loïc est avec nous.
Ok, 32 oui, c'est vrai.
Mais ouais, ils n'ont pas attendu que André Villas-Boas s'exprime pour avoir ce sentiment-là. Ouais, hein, je te rassure.
Loïc, bonsoir.
Salut messieurs, salut Laure. Exactement. Bonsoir. On n'a pas attendu que Villas-Boas a fait un dress.
Mais d'accord, Loïc.
Mais bien sûr. Hein,
ah, mais dans ces cas-là, tu peux aussi dire que le dirigeant, il a eu la bonne idée de prendre Villas-Boas, que c'est déjà grâce au choix du dirigeant de prendre Villas-Boas que le club retrouve la Ligue des Champions. Moi, je suis le premier à critiquer la gestion de l'OM. Je l'ai dit mille fois. Tout le monde sait ce que j'ai dit sur le choix initial, la situation financière. Mais il faut être honnête et il faut tout dire. Et moi, la communication qui fait que chacun passe à son cul dans le football, ça m'agace profondément. Et là, moi, j'ai le sentiment que les joueurs, quand ils pensent d'abord à leur avenir avant le club, et c'est une monnaie courante désormais, c'est comme ça, ça me saoule. L'entraîneur qui dit ce qu'il a dit aujourd'hui, bah, si on n'a pas les moyens, en gros, c'est bon, si je pars pour être quatrième de la poule, s'afficher, je me barre, eh ben, ça m'emmerde aussi.
La parole est à Loïc.
Mais forcément, parce qu'on est déjà dans une société individualiste. On le voit bien que tous les joueurs de Ligue 1, leur ambition, c'est d'aller jouer en Angleterre ou en Espagne.
Eh ben, je suis d'accord, Loïc.
Alors, sur Villas-Boas, Loïc, qu'est-ce que t'en penses?
Même chose. Après, moi, je pense qu'il prépare sa sortie. Et mettre la pression en disant « je veux des joueurs pour avoir des résultats », c'est normal. Chaque entraîneur veut avoir des bons joueurs pour avoir les meilleurs résultats possibles. Après, il faut aussi que les joueurs qui sont déjà en place, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on a la même équipe, et on ne peut pas dire qu'ils aient toujours mérité de jouer la Ligue des Champions. Même si c'était Rudy Garcia l'entraîneur, les gars sur le terrain, c'était les mêmes types qui faisaient pas les efforts, qui faisaient pas forcément les bons choix au bon moment, à se faire des bonnes passes, à jouer un collectif. Au même titre que on a le sentiment, nous les supporters, qu'il y a McCourt et Hero d'un côté et Zubizarreta et Villas-Boas de l'autre.
Donc c'est pas normal, c'est pas un club uni.
C'est
un problème.
Donc, ouais, mais c'est pas le monde des bisounours, Daniel. On sait très bien, excuse-moi Loïc, on sait très bien, Daniel, que par exemple Villas-Boas, s'il a ce discours-là, c'est qu'il estime, faut expliquer, faut remonter un petit peu en arrière. Lui, il estime qu'avec des moyens très limités, il a réussi quelque chose de fort avec ce groupe, un effectif court et le qualifier en Ligue des Champions. Donc lui, son discours, il est de dire, bon écoutez, on a pendant un an fait le taf. On a eu des ambitions de Ligue des Champions que même les dirigeants n'osaient pas afficher parce que l'effectif était très court, traumatisé par une saison passée, etc., etc. Bref, un contexte où lui s'est mouillé et avec très peu de joueurs, il a réussi à mettre le club deuxième et pas deuxième à l'arrache, hein, deuxième depuis 6 mois quasiment. Donc lui, il estime que c'est presque un dû maintenant qu'on a fait le taf et qu'on est en Ligue des Champions 7 ans après. Faut le rappeler quand même, hein, ça fait quand même 6 saisons que l'OM n'y a pas participé, au moins qu'on soit pas ridicule. Et c'est vrai qu'il y a une unanimité dans le vestiaire aussi, avec beaucoup de joueurs, Payet, Mandanda, Rongier, qui sont exprimés et qui font bloc autour du coach pour dire, mais moi je trouve ça beau quelque part, parce que toi tu critiques ça, Daniel, mais moi je trouve que t'as un vestiaire qui est solidaire, qui a envie de croquer dans cette Ligue des Champions, et qu'on vende pas 3-4 joueurs, certes avec une réalité économique et donc un équilibre à trouver.
C'est comme dans plein de sujets, ça c'est la foire aux bonnes intentions. Non, mais évidemment que je comprends. Sais qu'au-dessus, il y a eu des problèmes et qu'il n'y a pas l'oseille, à quoi ça sert?
On est d'accord, mais ce que je veux dire, le plus dur dans le foot, et Flo te l'a dit, le plus dur dans le foot, c'est de créer une solidarité dans le vestiaire déjà. Je te parle dans le vestiaire.
Créé là sans l'oseille. Donc, alors.
Non, mais ils l'ont créé cette année.
Ouais.
Entre les joueurs, entre l'entraîneur, le staff.
Il faut continuer parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Oui, mais.
Il y a des clubs qui vont en Ligue des Champions avec 50 millions de budget. L'OM va y aller avec 150.
Ok, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que.
Où est le problème?
En fait, ils ont créé ça. Mais Villas-Boas, lui, déjà, je pense qu'il voudrait être rassuré. Et il ne l'est pas, parce que s'il parle comme ça, c'est qu'il
l'est
pas.
Il ne le sera pas.
Non, mais il pourrait être rassuré en disant, écoute, on ne peut pas recruter Pierre-Paul Jacques parce que, en effet, on n'a pas les moyens. Ouais. Mais par contre, on te donne, avec cette qualification Ligue des Champions, ce que ça va amener au club, ce que ça va amener aux joueurs qui sont là, te donne la possibilité de garder cet effectif-là au moins encore un an pour voir ce que tu...
Ouais.
Peut-être que si tu lui parles comme ça, avec la solidarité qu'il y a dans le vestiaire, l'union qu'il y a...
Les dirigeants, ils vont faire le maximum,
mais
j'imagine.
Tu lui as pas dit. Tu lui as pas dit. Et je pense que, déjà, tu le dis pas à tes joueurs qui tu laisses parce que ça, je le sais, pour en avoir eu plus d'un au téléphone à Marseille. Je sais que les mecs, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ont aucune nouvelle de la part des dirigeants. Aucune.
D'ailleurs, Gilbert, on peut écouter Villas-Boas là sur le mercato et ses inquiétudes, parce que ça rejoint totalement ce que dit à l'instant Jérôme. C'est pour ça que je me suis permis de te couper, Jérôme. C'est qu'en fait, on lui a posé la question sur ses inquiétudes et lui, son objectif premier qui est de garder ce groupe au maximum. Alors, il sait qu'il faudra peut-être vendre un ou deux joueurs pour renflouer un petit peu caisses. Mais lui, il est inquiet d'une chose, c'est que beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2021 n'ont aucune nouvelle des dirigeants. Et là, André Villas-Boas nous l'a confié, ça le préoccupe.
Oui, mais maintenant, le problème est qu'on se trouve dans une position faible, ça veut dire d'un point de vue économique pour le négo. Il va falloir avoir des courages de la part des joueurs aussi. Ça veut dire choisir entre être libre ou donner quelque chose à l'OM ou accepter la rénovation en connaissant la situation économique du club maintenant. Évidemment, les joueurs sont libres. C'est vrai que les joueurs ne sont pas naïfs aussi et sont capables de penser à ça. La continuité de notre groupe est aussi importante, parce que si on n'est déjà pas un gros effectif, ça veut dire qu'on doit retenir les joueurs qu'on a.
Voilà, il dit les choses, malgré tout. Hein, il dit les choses avec sincérité, très clairement, en disant, écoutez, moi j'ai un groupe qui a besoin de visibilité. On peut pas arriver comme ça sur une saison avec des joueurs importants, parce que Thauvin en fait partie notamment, qui sont en fin de contrat.
Mais Flo, justement, comment c'est possible qu'un club comme Marseille arrive avec des joueurs qui sont quand même importants pour l'effectif, Thauvin, Mandanda, même Amavi qui a bien rebondi cette saison. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Comment un club comme Marseille il peut arriver dans cette situation? D'autant plus qu'ils ont des problèmes économiques. Ça veut dire que peut-être en fin de saison, si tu n'as pas renouvelé ces contrats, tu vas encore perdre plus d'argent, parce que tu ne pourras même plus rentrer d'argent dans tes caisses, parce que tu n'auras même pas de quoi, tu les auras même pas vendus, et tu n'auras pas d'argent qui va rentrer. C'est une situation économique qui peut être encore plus catastrophique.
Tu peux le comprendre, si, mais le tout, c'est de l'expliquer. Pourquoi tu le caches aux joueurs? Pourquoi tu leur dis pas? Parce que Villas-Boas, il a raison. Ce que je veux dire, c'est que d'accord, même si demain tu lui dis, et ils vont se voir là prochainement, tu lui dis on va garder tout l'effectif. Ok, mais on va pas renouveler les. Donc les mecs vont arriver en fin de contrat. Je te parlais de solidarité dans le vestiaire et tout ça. Et on parlait d'individualisme dans le foot qui existe. Hein, je vais pas te dire que ça existe pas. Mais quand tu t'entends bien, quand il y a un groupe qui vit bien, comme c'est le cas de Marseille. Je pense que c'est plus facile de faire passer le collectif avant les cas individuels. Mais le problème, c'est que la saison va commencer, la Ligue des Champions va arriver. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la Ligue des Champions, si Marseille arrivera à être dans les clous pour se qualifier, s'ils font un ou deux premiers bons matchs. Mais les mecs, ils sont en fin de contrat. Mais ils vont penser qu'à leur gueule. Et là, le collectif, paf, il va exploser, parce que t'en as pas qu'un qui est en fin de contrat. T'en as quatre ou cinq. Et ça, c'est problématique aussi. Et Villas-Boas, il le sait avec l'expérience qu'il a. Donc tout ça, il faut vraiment qu'il se pose et qu'il arrive à régler. Et c'est un problème de communication, encore une fois.
Loïc, merci en tout cas.
Attends, juste 30 secondes, si je peux rebondir sur ce que
disait. Alors non, c'est ce qu'on va faire. Regarde, tu restes avec nous, parce qu'on a une petite pause obligatoire, hein, et hop, on revient dans quelques secondes et on continue le débat. On va aussi parler de Villas-Boas qui évoque la Ligue des Champions et de ce qu'a fait Héro avec les supporters ces dernières heures avec Florent. L'OM continue donc au programme de l'After, tout de suite.